Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h, quasiment 39 minutes, vous écoutez RTL. On va donc défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec la joyeuse bande. Cyprien Cini, Céline Landreau, Laurent Tessier. L'info autrement, en tout cas avec un autre regard. On essaye chaque soir jusqu'à 19h. On essaye de vous apprendre également plein de choses. Le menu, Cyprien.
Ce soir, on défait le monde s'intéresse à la vaccination à travers les âges, de la réticence à l'adhésion jusqu'à l'obligation. Il n'y a qu'un pas, plusieurs fois franchi par l'histoire. Au menu également, la revanche de Mini contre Mickey, le patron de la SNCF, meilleur ami de la nature, et le futur Thomas Pesquet. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti!
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence comme tous les soirs avec le son du jour. En 33 tours chez tous vos disquaires préférés, la bande originale dont défait le monde.
Un vaccin qui sera peut-être obligatoire, comme ça va être le cas en Autriche et peut-être en Allemagne. Alors, même si pour l'instant le gouvernement est contre en France, hein, avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu se plonger dans l'histoire de la vaccination obligatoire.
Quel est le premier pays à avoir imposé un vaccin pour tous? Comment la population a réagi? Et en France, comment la vaccination s'est-elle imposée à travers les âges?
Eh bien, pour le savoir, on a fait appel à Laurent-Henri Vigneault. Il est historien des sciences, co-auteur du livre « Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours » aux éditions Vendémiaire. Et le premier pays à avoir imposé la vaccination obligatoire, surprise, c'est pas le pays de Pasteur, non, non.
Le premier grand pays vraiment à adopter une loi très contraignante, c'est l'Angleterre en 1853. Et ça concerne qu'un seul vaccin, qui est celui contre la variole. L'obligation vaccinale s'appliquait à ceux sur qui on avait un pouvoir sur leur corps, si vous voulez, c'est-à-dire les pauvres, les ouvriers des usines, etc. Donc ça a été pris comme une mesure discriminatoire.
Et ça s'était très très mal passé. C'est le caractère obligatoire qui a créé le mouvement anti-vax. Plus que l'aspect scientifique, en fait.
Et en France, alors, ça date de quand?
En 1902, pour la variole. Sauf que si c'est obligatoire, faut pouvoir vérifier que les gens le font.
Ah oui, c'est toujours le problème.
Et c'est là que ça se complique, en fait.
La loi de 1902 a été très mal appliquée, en réalité, parce qu'elle mettait les maires dans la responsabilité de faire appliquer la loi. Et les maires n'étaient pas toujours prêts à faire des procès à leurs administrés. Donc l'autre lieu de surveillance, évidemment, puisque ces vaccins étaient donnés dans l'enfance, c'était l'école. Il n'y a pas en France de mouvement anti-vax très structuré. La question de l'obligation vaccinale, c'est une question de droit, c'est une question de démocratie, c'est une question de droits fondamentaux. Et donc le fait de placer le terrain sur le terrain juridique entraîne nécessairement une mobilisation plus forte.
Donc à chaque fois, l'aspect obligatoire du vaccin crée un problème?
C'est exactement ça. Et si le vaccin Covid devenait à son tour obligatoire, ça serait une première historique pour une raison assez simple finalement, écoutez.
L'obligation vaccinale, historiquement, elle est fondée sur l'obligation des vaccins de l'enfance. Donc c'est une manière d'imposer aux parents la protection obligatoire finalement des enfants. Là, on est dans une situation un peu différente et surtout un peu inédite, et qui est d'envisager non seulement une vaccination obligatoire, ce qui, encore une fois, c'est déjà fait. Là, on a une loi de 2018 qui porte l'obligation de 11 vaccins de l'enfance, mais surtout de la porter au niveau de la totalité de la population. Et ça, c'est totalement inédit, qu'on vaccine dans le monde entier avec les mêmes vaccins, une obligation générale.
On parle beaucoup de l'aspect obligatoire, mais sur un plan sanitaire, il n'y a jamais eu de problème avec les vaccinations à très grande échelle,
hein. Alors, selon notre historien, non, en tout cas, pas depuis très 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 longtemps, en fait.
Alors, dans l'histoire, il y a eu des problèmes au début de la vaccination contre la rage par Pasteur. Il n'y a pas d'incident ou d'accident comparable, disons, dans l'après-guerre. Il n'y a pas eu de scandale impliquant, si vous voulez, des dizaines, des centaines de malades ou de morts. Les scandales sanitaires dont on entend parler la plupart du temps concernent, si on peut dire, les médicaments classiques.
Et pas plus tard qu'hier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a encore rappelé que la France n'avait pas choisi la voie de la vaccination obligatoire contre le Covid, en tout cas pour l'instant.
Oui, en tout cas la question sera sans doute de nouveau posée au gouvernement. On rappelle que lundi, il y aura un énième, on ne les compte plus, conseil de défense sanitaire autour du chef de l'État après la découverte aujourd'hui des premiers cas du variant Omicron dans notre pays.
RTL, sous les radars.
Tous les soirs, dans Défait le Monde, vous découvrez une info qui est totalement passée inaperçue.
Avec ce soir, mesdames, messieurs, chez Disney, Minnie, qui prend le fauteuil de Mickey, Céline.
Oui, enfin, mini, le CV de Suzanne Arnold, la première femme donc à devenir présidente de Walt Disney depuis près de 100 ans, lui, ne l'est pas. Mini.
Ah, joli.
Ça fait déjà 14 ans qu'elle est présente au conseil d'administration de l'entreprise américaine. Et d'ailleurs, les symboles américains, elle les connaît bien, puisqu'avant, Suzanne Arnold a aussi travaillé pour McDonald's, une femme de 67 ans, donc, qui prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 31 décembre à la tête du géant du divertissement. Et chez nous, me direz-vous.
Ah, oui, chez nous.
Eh bien, il n'y a toujours qu'une seule femme à la tête des groupes du CAC 40, c'est Catherine McGregor, directrice générale d'Engie. Et cela, 10 ans après la loi Copé Zimmerman, loi qui imposait, rappelez-vous, un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Alors, elles sont bien présentes hein, dans les conseils, mais moins nombreuses à la tête des organes de direction.
Il y a encore du boulot. Merci beaucoup, Céline. Petite pause et on continue de défaire le monde, évidemment, dans RTL Soir avec la première info pour briller au dîner. On va vous emmener voter juste après ça. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h46 minutes, on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Vous le savez, on aime distiller comme ça des petites infos étonnantes, intéressantes qui vous permettent ensuite de briller au dîner. Voici la première.
D'ailleurs, envoyez-nous des lettres hein, si vous arrivez à briller avec nos infos.
Ah oui, c'est
ça
vrai
fait plaisir.
On aimerait avoir des retours voilà. Comme ça. Ouais. Oui, grâce à Céline.
N'hésitez pas.
Uniquement si vous avez des bons retours. Si vous prenez des bides, c'est pas la peine de nous écrire.
Ce ne sont que des bonnes infos, il n'y a que des bons retours. Alors, sondage RTL ce matin.
Hashtag pression.
Près d'un Français sur 10 en âge de voter n'est pas inscrit sur les listes électorales. Les Français boudent les isoloirs. D'ailleurs, ça vient d'où l'isoloir, Laurent ?
L'Australie. Le pays a été le premier à installer des isoloirs dès 1857 pour mettre fin aux fraudes et ainsi permettre à chaque électeur de s'abriter pour voter à l'abri des regards indiscrets. En France, il faudra attendre 1913, bien plus tard que nos voisins anglais ou allemands. Et on en profite cette année-là pour imposer l'enveloppe où l'on glisse son bulletin et aussi le dépôt dans l'urne par l'électeur lui-même. Alors auparavant, vous donniez votre petit papier plié au président du bureau de vote qui s'en chargeait directement. Vous imaginez, donc le président du bureau de vote pouvait voir pour qui vous alliez voter.
Oui, quoi. Et puis il pouvait changer le bureau, le papier. Enfin, c'est une horreur.
Voilà, ça existe encore dans certains pays, ça, Cyprien.
Eh ben, c'est pas bien.
La fraude électorale, c'est pas bien. Merci Cyprien.
Cyprien, un grand démocrate. Merci beaucoup, Laurent, pour cette info pour briller au dîner.
Julien Cellier, Cyprien Sini ont défait le monde.
Ah, vous l'aimez ce moment. Celui où Céline rend chaque soir son verdict. Le winner, le loser du jour, c'est qui aujourd'hui ?
Alors, évidemment, aurait pu choisir un loser, un grand perdant, genre Xavier Bertrand, suivez mon regard, mais Céline a encore une once d'humanité et vous avez donc préféré un winner, un grand gagnant qui n'est pourtant pas épargné en ce moment.
Oui, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF qui se frotte les mains après des mois difficiles, les Français reprennent le train, plus de réservations pour les vacances de Noël qu'en 2018. La SNCF est de retour, les amis, après un Noël 2020 marqué par le...
Covid-19.
Mmh. Ouais, par le Covid. Et avant ça, un Noël 2019 marqué par...
Aujourd'hui, le trafic de vos trains sera extrêmement perturbé.
La grève contre la réforme des retraites à la SNCF...
Donc, après deux périodes de fêtes bien difficiles, Jean-Pierre Farandou a décidé de savourer. Et n'allez pas lui rabâcher tout ce qui ne va pas à la SNCF. De toute façon, le PDG a réponse à tout. Tenez, hier, il était interrogé par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, un peu bousculé par le député Gérard Leseul.
Question relative au prix des billets. Ils sont, malheureusement, ils restent très chers, monsieur le PDG. Partir dans le sud-ouest revient quasiment automatiquement moins cher en avion.
Oui, le train, plus cher que l'avion. Eh bien, monsieur Farandou, la solution.
C'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui n'est pas assez.
Bah oui, augmenter les prix des billets d'avion, comme
bon,
ça, le train paraîtra moins cher. Pas hyper populaire comme mesure, d'ailleurs, RTL vous le révélait, le ministre des Transports n'a pas apprécié, même si Jean-Pierre Farandou brandit, lui, l'argument écologique.
Comment ça se fait qu'on arrive à avoir des billets de train à 30 euros ? Enfin, quand on voit l'impact carbone de billets d'avion, enfin, c'est ça dont il faut parler, quoi. Est-ce qu'on impute au billet d'avion le coût de son impact carbone ou pas ? Si on l'impute pas, ça donne ça. Je le redis, un TGV, ça pollue 80 fois moins que le même voyage en avion. 80 fois moins.
Et la nature, ça permet de parer toutes les attaques. Interrogé ce matin chez nos confrères de France Info sur les retards de train, notamment dans les Hauts-de-France, Jean-Pierre Farandou a expliqué.
Bon, c'est là où il faut faire un peu mea culpa. La SNCF n'a pas vu arriver des phénomènes. On aurait toujours pu dire qu'on aurait pu les voir. Tous les ans, on a une difficulté. À l'automne, les feuilles tombent. Ces feuilles sont écrasées par les trains. Ça abîme les roues. Quand les roues sont abîmées, on est obligé de faire passer les engins à l'atelier pour reprofiler les roues. Ce qu'on a eu cette année, c'est qu'il semblerait que la végétation a été particulièrement luxuriante cette année. Donc il y a eu beaucoup plus de feuilles.
Ah ouais, plus de feuilles cette année.
Il est génial, moi je l'adore.
Et quoi d'autre alors pour expliquer les retards ?
On a beaucoup de gibier en ce moment. Vous savez que les gibiers ils prolifèrent, les sangliers, les chevreuils. Quand un train tape un gibier, bah, ça abîme le train.
Bah oui, les sangliers, les chevreuils. Donc s'il y a des retards, c'est pas la faute de la SNCF. Enfin presque pas, c'est à cause de la nature. Réponse à tout, on vous dit.
SNCF, c'est possible.
Et c'est décidé, vous ne lui gâcherez pas les fêtes de fin d'année.
Bon, en tout cas, on verra si les fêtes de fin d'année ne sont pas gâchées. Covid, grève,
feuilles mortes, chevreuils et sangliers.
On a appris à devenir fataliste hein, depuis quelques mois. Merci beaucoup Céline. Petite pause. Dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. On vous emmène aux Jeux Paralympiques juste après ça, tout de suite.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h53, on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Voici une nouvelle occasion de briller tout à l'heure au dîner, la seconde info du soir.
Et alors si vous aimez le sport, ça va vous permettre de briller. Puisque c'est J-1000, oui, nous sommes à 1000 jours du début des Jeux Paralympiques de Paris 2024.
Ça c'est pas l'info ça.
Non mais déjà il faut le savoir.
Déjà il faut le savoir,
vous pouvez apprendre quelque
chose. Déjà on peut amorcer le dîner comme ça. Dis donc, tu sais que...
Dans 1000 jours, dans 1000 Paris jours. 2024 en e-sport. Alors, l'équipe sort d'ailleurs un grand dossier sur le sujet, ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Et vous Céline, une formidable info pour briller ce soir.
Oui, pour rendre hommage à une formidable championne, Trisha Zorn. Son nom ne vous dit peut-être rien.
Absolument rien.
C'est une légende du sport, c'est le plus grand palmarès des Jeux Paralympiques. La nageuse américaine, aveugle de naissance, a décroché 41 titres.
41 titres d'or, quoi.
Exactement, vous ajoutez à ça quand même quelques deuxième et troisième places. Et on est à 55 podiums au total sur 7 éditions. C'était entre 1980 et 2004. C'est pas mal. Chez les Français, c'est aussi une nageuse hein, qui détient le record, c'est Béatrice S avec 20 médailles d'or.
Franchement, ouais. ça mérite que je choisisse cette info pour briller. On est d'accord. C'est une décision
collégiale. Allez dans l'isoloir pour bien réfléchir avant votre réponse.
Même Laurent, vous êtes d'accord, elle est super cette info pour briller au dîner ce soir. 55 podiums, 41 titres olympiques.
Et son
Trisha Zorn. Voilà, on va retenir ce nom.
C'est important de le retenir. Tout ça, c'est juste pas mal pour Céline Landreau. Vous voyez l'enfer que je vis toute la journée quand on prépare cette émission.
C'est dur.
Il y a un certain manque d'enthousiasme parfois
c'est
chez
pas mal.
Il y a une demande de rigueur
et d'exigence. Mais c'est la marque de RTL. Merci Céline.
Marche ou rêve.
Allez, marche ou rêve, tous les soirs, on vous passe un petit coup de téléphone. C'est toujours un coup de téléphone sympa parce que ça vous donne l'occasion de nous raconter vos projets, vos parcours de vie. C'est le cas d'ailleurs ce soir.
Oui, et puis on suit les parcours, hein, puisqu'on l'a vu au téléphone en juillet dernier, prêt à relever un immense défi. Et on a décidé de prendre de ses nouvelles 5 mois plus tard, Laurent.
Oui, Clément rêve d'intégrer l'Agence spatiale européenne, devenir astronaute, le prochain Thomas Pesquet. Et l'été dernier, souvenez-vous, il s'était inscrit au casting, plus motivé que jamais.
Je souhaite candidater parce que ça permet de concilier ma curiosité scientifique avec mon goût pour l'aventure. Et je pense donc qu'il n'y a pas vraiment de projet plus exaltant que celui-ci.
Plus de 22 000 candidats ont envoyé leur CV, dont un peu plus de 7 000 Français. Bonsoir Clément.
Bonsoir.
Alors, où en êtes-vous ?
Eh bien après pas mal de mois d'attente où il a fallu être assez patient, j'ai finalement reçu une bonne nouvelle de la part de l'Agence spatiale européenne qui me convie à l'étape 2, donc qui consiste au test psychotechnique. Voilà.
Vous êtes combien à avoir été sélectionné ?
Alors précisément, je ne sais pas, mais l'Agence spatiale européenne avait annoncé qu'elle retiendrait 1500 personnes lors de la première étape. Donc a priori, je fais partie de ces 1500-là.
Donc de 22 000, vous êtes passé à 1500 là ?
C'est ça, c'est une belle étape de passer. Après, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Hein. Il y a encore une chance sur 100 seulement de faire partie des finalistes. Donc voilà. Et puis c'est maintenant que on rentre vraiment dans le vif du sujet, étant donné que la première étape c'était simplement une analyse du CV et d'une lettre de motivation. Maintenant, voilà, on va vraiment être testé sur des compétences concrètes.
Alors justement, ça ressemble à quoi la prochaine étape ? C'est le 6 décembre à Hambourg. Parce qu'on est très renseigné ici. On va tester quoi ? Votre logique ? Il y aura des tests physiques ?
Ce sont seulement des tests psychotechniques, donc je ne peux pas rentrer dans le détail, mais oui, ça vise à tester la logique, l'acuité visuelle, la mémoire. Je me prépare bien, donc j'espère avoir mes chances.
Je rappelle quand même que vous aviez, parce que vous avez dit juste, on est sélectionné sur le CV pour être dans les 1500 là. Vous avez quand même un CV de compète, hein. Il y a quoi dedans par exemple ?
vous y allez fort. Je suis d'une part ingénieur et également officier dans la réserve opérationnelle à l'armée. J'ai mon brevet de pilote d'avion. Je suis assez pluridisciplinaire et c'est peut-être ça qui a dû leur plaire dans mon CV.
Et vous étiez aussi en train d'apprendre le russe, Clément, si je ne me trompe pas. Vous en êtes où?
Effectivement, c'était pas une mince paire de manches, mais moi, je pense que j'ai des rudiments.
Ah,
C'est le début, mais
c'est pratique, oui. Le russe pour partir de Baïkonour. C'est l'objectif, c'est votre rêve en fait ultime, la Lune, Mars, toutes ces missions qui sont prévues dans les prochaines décennies.
Oui, bah c'est mon objectif ultime. J'aimerais beaucoup faire partie des missions qui iront sur la Lune et autour de la Lune, et peut-être faire partie également des missions qui iront sur Mars. Voilà, peut-être dans deux décennies, a priori. Et d'ici là, je ne sais pas si on partira de Baïkonour ou d'ailleurs. Mais je pense que c'est important d'apprendre le russe pour notamment continuer la coopération qu'on peut avoir avec la Russie et Roscosmos.
Eh bien, merci Clément. Bon courage pour les tests. On prendra évidemment de vos nouvelles. Et surtout, on peut vous suivre sur votre compte Instagram, SpatioClem. Bonne soirée Clément.
Merci beaucoup. Bonne soirée également.
Bonne soirée Clément et bon courage. Et si, comme Clément, vous avez envie de
partir
raconter...
dans l'espace.
Pas seulement. Pas seulement, on va pas faire Thomas Pesquet tous les soirs, mais si vous avez envie de nous raconter vos parcours de vie, vos combats, vos projets, vos initiatives, et on sait qu'il y a plein de choix d'initiatives partout sur le territoire, vous n'hésitez pas, on a envie de vous entendre, donc vous pouvez nous contacter pour passer dans l'émission.
C'est très simple, deux moyens, la page Facebook ou le compte Twitter, dont défait le monde. Il y a également un moyen cher à Céline Landreau, le courrier.
Voyageur.
Exactement. 56 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly-sur-Seine. Le code postal, Céline?
92-200.
Voilà. Très bien. L'équipe dont défait le monde, ça arrive dans notre case directement.
Le numéro de téléphone personnel de Laurent, le 06. Non, ça, on l'a fait régulièrement, cette blague.
On donnera
un jour, on le donnera.
Mais n'hésitez pas à nous contacter, on adore ça.
Laurent, Cyprien, Céline, merci les amis dont défait le monde. On ne se retrouve pas demain parce que le vendredi à 18h40, on refait nos
régions.
Voilà, très bien. À très vite, les amis. Vive la France. Aventure dans RTL Soir. Dans un instant, ce sera le journal de 19h avec Sébastien Krebs. Alors, on a plein de choses à vous raconter, notamment l'actualité sanitaire qui est comme chaque soir désormais très évolutive. On accueillera aussi Valérie Pécresse. Vous savez que le duel de la droite, c'est ce soir sur RTL, après Éric Ciotti il y a quelques minutes. L'autre finaliste du Congrès des Républicains sera notre invité dans quelques instants. Juste avant ce journal...